Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour, rebonjour à tous si vous nous êtes fidèles depuis 9h ce matin. Le sujet dont on parle maintenant va d'autant plus vous toucher que nous sommes à la radio. Nous allons parler de la voix, de ses talents, Julie, celui de nous émouvoir, de nous transporter, de nous illusionner. Je pense aux imitateurs, on en a une belle représentation ici avec Monsieur Canteloup. Les secrets des cordes vocales peut-être de Piaf à Céline Dion. Pourquoi des voix hors normes et que disent nos voix de ce que nous sommes? J'accueille un expert ce matin, il est phoniatre, médecin ORL, passionné par cette matière. Jean Habitbol publie Voix de femme chez Odile Jacob et on l'accompagne dans cette découverte sur Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler.
Bonjour Jean Habitbol.
Bonjour.
Impossible de commencer ce tour de la question sans l'empreinte de la voix de Piaf, qui est d'ailleurs en couverture de votre ouvrage.
Oui.
Elle parle cette voix, elle nous marque d'abord par à la fois sa force et sa fragilité.
Exactement. Ce qui est superbe dans cette voix, c'est que lorsqu'on l'écoute, elle est au présent, elle est encore au présent, mais elle nous montre l'histoire, c'est-à-dire qu'elle a commencé à vivre dans son passé. Et quand on l'écoute, on est déjà dans un avenir dans lequel on voit cette souffrance dans cette voix. Elle est surtout le reflet de son charme, mais aussi de sa personnalité.
Oui.
Et cette voix, il n'existe pas un Apollon une Vénus de la voix. Une voix, sa beauté, c'est justement ce charme dans lequel il y a une petite imperfection qui fait faire écouter cette fragilité. Et cette fragilité lui donne cette valeur, lui donne cet élément fondamental de l'écoute de l'autre, où on cherche à comprendre le pourquoi et le comment. Et elle nous permet de rentrer quelque part dans sa personnalité aussi.
Et dans son histoire qui fut marquée par l'empreinte du temps, Piaf meurt à 47 ans, sa voix est accablée aussi par les souffrances de sa vie.
Exactement. Absolument. Et surtout cette chanson magnifique, après la perte de son amoureux, comme elle dit, on la sent presque pleurer sur scène, mais elle ne le fait pas. Elle a ce côté délicat où elle ne se livre pas complètement et pourtant elle laisse percevoir son émotion et sa fragilité aussi.
Alors dans ce livre, vous évoquez beaucoup de choses, des voix célèbres mais pas seulement, les voix aussi qui nous touchent dès notre enfance, dès même le ventre de la maman, quand
Absolument.
Le fœtus est en prise avec la voix de sa maman. Ça, c'est pas de la littérature, Jean-Paul.
Non, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, mais j'aimerais juste revenir sur les voix qui chantent.
Bien sûr, quand on écoute
Véronique Sanson, c'est pas seulement une voix, c'est une femme. Mm-hmm. Et sa voix, elle danse avec le piano. Le piano lui donne l'écrin de cette voix. C'est-à-dire qu'on l'écoute et on sait que derrière, il y a tous ces harmoniques du piano et elle en fait elle-même un instrument de musique magnifique. Alors pour revenir à votre question, on dit effectivement, il y a une expérience fabuleuse, fantastique, qui a été faite il y a maintenant 3 ans sur des enfants prématurés. L'enfant naît à 40 semaines au niveau de la grossesse. Prématuré, c'est à partir de 7 à 9 mois, je dirais, de grossesse. Et puis on a pris des enfants de 7 mois et on les a mis, bien évidemment, dans une couveuse. On en a pris 20 qu'on a mis dans une couveuse en écoutant le bruit ambiant de l'hôpital. Bip, 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 bip. Rien d'autre, ce qui était habituel. Puis on en a pris 20 autres qu'on a mis dans une couveuse dans lequel, fantastique, on fait écouter le cœur qui bat de la mère. Tchou, 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 pendant les 2 mois. On fait écouter également la voix de la mère qui raconte des histoires et qui fait des berceuses. Le terme est important. Pendant 2 mois. Dans un cas, le premier groupe ne va vraiment bien parler, mais c'est dans la majorité des cas bien sûr, qu'entre 18 mois et 24 mois.
Oui.
Dans le deuxième cas, entre 9 et 12 mois, l'enfant prématuré est un prématuré, c'est le prématuré qui parle. Et la projection où le cerveau s'allume au niveau de l'IRM montre également cette performance à 9 mois, puisqu'on peut faire des IRM à un tout petit bébé, même de 9 mois, enfin après la vie fœtale, au moment de 40 semaines, et bien cette portion du cerveau s'allume.
Ça
c'est quand même
que
extraordinaire de voir cet impact
de la voix maternelle qui infuse.
Absolument, de cette voix qui, bien sûr, va permettre à l'enfant d'écouter la mère, mais de l'intérieur, puisqu'il y a une voix qu'il écoute. Mais les battements de la mère, ces battements sont là. Donc quand elle stresse, l'enfant, le tout petit, lui aussi, d'avoir un stress.
Ouais, c'est incroyable. On va faire des allers-retours entre la science, vos observations, les anonymes que nous sommes, et puis les célébrités. On en a une ici en studio, et quelle voix ? Moi, je voudrais vous faire entendre une petite archive. On est en 1978, il y a donc 41 ans. Écoutez, Julie Leclerc.
Ah, c'est une rédaction à l'américaine, tout est vitré, on voit tout ce qui se passe.
C'est vrai, c'est bien d'ailleurs comme ça. Ah, savons au moins qu'il n'est pas tombé dans l'escalier, il ne s'est pas cassé une jambe.
Non, non.
Il arrive en courant, il ne ferme pas la porte.
Les prévisions météo de Laurent Cabrol, un peu essoufflé.
Voilà, je voudrais que vous nous donniez le secret de la voix intacte de Julie, par exemple. Elle a la même voix, c'est impressionnant Julie, hein, c'était il y a 41 ans. Comment expliquer que les voix ne changent pas, certaines voix ?
Alors, la voix ne change pas pour deux raisons relativement simples. La première, et ça ne vous étonnera pas, ce sont des voix authentiques et sincères.
Oui.
Une voix qui va truquer avec soi-même va de nécessité ipso facto vieillir et puis ne plus devenir elle-même. L'authenticité, la sincérité d'une voix, que ce soit Julie ou Charles Aznavour, qu'on connaît
ou
bien.
Chantal Goya, parenthèse.
Ou Véronique Sanson. Ou ces voix-là sont des voix extraordinaires qui, à 27 ans et à 60 et quelques années, ont gardé ce timbre et ont gardé cette sincérité. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et puis la seconde, eh bien, les scientifiques. La voix est toujours entre l'émotion et la science. Eh bien, scientifiquement, si votre voix, vous continuez à l'utiliser et à être heureux de ce que vous faites, donc elle fait partie de votre personnalité, l'ocytocine, qui sont des hormones de la récompense, fait que votre propre voix auto-entretient cette voix elle-même et provoque la possibilité de la conserver comme vous voulez à 25 ans.
Je peux rajouter quand même une troisième chose, c'est l'hygiène de vie. Vous ne fumez pas, Julie ?
Non.
Ouais. Donc vous faites attention quand même à votre instrument de travail ou pas plus que ça ?
Pas plus que ça, non, pas du tout.
C'est vrai que
c'est la richesse authentique.
Ce que vous dites est fondamental, l'hygiène de vie, mais pour moi c'est tellement évident que je l'oublie. Mais c'est vrai que l'hygiène de vie, on écoute par exemple Jeanne Moreau. Bon, Jeanne Moreau, à l'âge de 25 ans, même si sa voix est restée authentique, et mon Dieu qu'elle est restée authentique, eh bien 65-70 ans, c'est une voix comme ça. Quoi.
Et c'est quoi donc, ça ? C'est la cigarette ?
C'est un édème, un gonflement au niveau des cordes vocales. On a deux cordes vocales. Mm. On a deux cordes vocales, la corde vocale droite et la corde vocale gauche. Et non pas comme me disait cette gamine dont je raconte l'histoire, Laurence, qui me dit « Docteur, c'est normal qu'on a deux cordes vocales, elle avait 9 ans. » Je dis « Bon, pourquoi ?» Je dis « Parce que moi je joue au piano, ma main gauche c'est pour les cordes, c'est pour les graves, et ma main droite c'est pour les aigus. » C'est super.
C'était logique.
C'est très logique. En fait, on a deux cordes vocales, et ces cordes vocales, en fonction du diamètre de la corde vocale, chez la femme c'est beaucoup plus fin que chez l'homme, la longueur également, mais en fonction de ce diamètre, la corde vocale, c'est finalement la hauteur qui va vous donner la hauteur de la voix, et ces voix très graves. Et c'est là où il y a un élément. Je vais vous raconter autre chose.
On va reprendre après la pause.
Non, mais parce que la voix grave, vous l'avez au départ, dès la naissance, c'est le diamètre. Sauf si cette voix grave, vous fumez et vous allez créer un édème des cordes vocales. Donc la voix grave, quelque part, vous est imposée. C'est la raison pour laquelle les femmes peuvent imiter relativement bien dans les aigus, peu dans les graves, alors que les hommes peuvent aller dans les aigus.
Écoutez cette voix.
J'ai tellement peur de décevoir et de donner une image qui n'est plus celle que les gens attendent de moi, que ça me paralyse quelquefois.
Voilà, la voix de Brigitte Bardot qui reste forte, magnifique et j'allais dire, malgré sa gravité, ingénue.
Oui.
Parce qu'elle a gardé évidemment les variations.
Elle a gardé un débit caractéristique.
Ouais. Tout à fait, mais elle a gardé également quelque chose de capital, c'est les silences entre les mots. La voix de l'homme va parler beaucoup plus vite. Il faut qu'il convainc, il va falloir qu'il y aille, il faut en rajouter.
Oui.
La voix de la femme a quelque chose de superbe, c'est qu'elle est beaucoup plus posée, elle va tranquillement poser sa voix, et les voyelles d'une femme, vu la caisse de résonance, eh bien, elles sont sexuées.
Voix de femme, Jean Habitbol fait le tour de la question jusqu'à 11h ce matin. Il publie cet ouvrage chez Odile Jacob, c'est passionnant. Et cela nous réunit jusqu'à 11h avec Julie, notre voix en or. À tout de suite.
On va trop donner, bien avant l'envie. J'ai oublié des rêves et des merci. Toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre. Qu'on me donne l'envie, ou l'envie d'avoir envie, voler ma vie.
Nous parlons des voix et pas simplement des voix féminines, Julie, parce que comment parler de la voix sans entendre la voix exceptionnelle, fascinante de Johnny Hallyday, Jean Habitbol.
Oui. Oui, alors là, qu'on soit homme ou femme, quand on est un athlète de la voix comme Johnny Hallyday, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on connaît des athlètes femmes, bien sûr, au niveau vocal, mais Johnny est quelque chose d'exceptionnel. On revient à la notion d'authenticité, de sincérité. Quand il chante Johnny Hallyday, il reste Johnny Hallyday à l'âge qu'il a, comme il est et comme il veut être. Il n'essaye pas de redevenir le Johnny qu'il avait quand il avait 25 ou 30 ans. Il évolue avec son temps, mais d'une façon remarquable et exceptionnelle. Alors ce côté athlétique, ce côté dur quelque part, quelquefois, ce côté écorché, il sait l'habiller de l'émotion. Le langage du corps qu'il a sur scène est parfaitement en synchronisation avec sa voix.
Absolument,
oui. Lorsqu'il transpire sur scène, lorsqu'il est là, en train de nous donner tout ce qu'il est, il se met à nu vis-à-vis du spectateur.
Sauf que, Jean Bidbol, vous parlez d'athlète de la voix. Les athlètes, par définition, pour reprendre ce terme, respectent une hygiène de vie. C'est le cas de Céline Dion. Johnny, c'était tout le contraire.
Oui.
C'est-à-dire, la clope, l'alcool, toutes ces substances-là qui l'ont écorché et il le savait.
Exactement. Mais c'est ça qui est beau dans l'être humain. On n'est pas tous pareils. Lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Il est vrai, ce que vous dites est plus que vrai, puisque non seulement cela, mais souvent, avant les concerts, et on en sait quelque chose, il prenait parfois de la cortisone, qui est encore un peu difficile, peu importe. Mais c'est ça qui confirme la règle, et il fait partie des exceptions. Il ne faut surtout pas suivre ce côté, entre guillemets, tabac-alcool, mais suivre ce côté sincérité, bien sûr que oui.
En tout cas, ce cocktail tabac-alcool aggrave la voix.
Elle aggrave la voix. C'est ce qu'on voit chez les chanteurs de jazz.
Oui.
C'est ce qu'on voit chez les femmes qui, comme on en connaît beaucoup, qui ont chanté comme Tina Turner plus tard. Et ce côté, effectivement, comme Whitney Houston, bien sûr. Et quel artiste, quel artiste.
Et qu'on appelle The Voice.
Mais à un moment donné, ces femmes sont beaucoup plus fragiles. Et quelqu'un comme Whitney Houston, qui est absolument exceptionnel, elle s'est brûlée parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand vous prenez de l'alcool et le tabac, vous passez à une addiction où vous voulez toujours être performant. Mais l'addiction est quelque chose de terrible. Il faut aller de plus en plus haut pour pouvoir avoir la même sensation qu'au départ, quand il y a 5-10 ans. Et ils se sentent mangés, dévorés par cette addiction.
La voix est le souffle de l'âme, voilà ce que disait Barbara, ce qu'elle écrivait du moins dans Il était le piano noir. Il y a des voix qui nous inspirent, qui nous transportent plus que d'autres, et on en entendra jusqu'à 11h. Ce qui est sûr, Jean Habitbol, vous qui êtes phoniatre et médecin ORL, c'est que par le fait de notre anatomie, chaque voix est unique.
Oui. Alors dans Voix de femme, il y a la première partie qui explique l'anatomie. Je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de passer par là.
Oui.
En fait, si vous voulez, chaque voix est unique parce qu'elle apporte sur le plan anatomique. La voix est un instrument accordé avant. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a ces deux éléments qui sont amalgamés. La puissance de la voix, c'est le souffle pulmonaire. La vibration, c'est les cordes vocales. Et puis la caisse de résonance, 1, 2, 3, 1, 2, 3, là je viens de boucher mon nez, mais ma voix n'est pas la même. Pourtant la caisse de résonance est la même, mais elle vient de changer parce que j'ai bouché mon nez tout simplement. Donc la voix unique, pour deux raisons. La première, c'est le contexte anatomique. Et la deuxième, c'est que votre voix est un mélange entre l'émotion et la raison. C'est une alchimie entre les deux. Une voix n'est jamais insensible, sauf certaines voix de robot. Et encore, le propre de la voix de l'homme, c'est cette sensibilité. Mais surtout, surtout, la voix chante. La voix est une musicalité. Et cette musicalité, c'est votre émotion qui va l'apporter, alors que le véhicule, ce sont les mots, ce sont la façon dont vous allez parler. Et c'est la raison pour laquelle 7 milliards d'individus sur la planète, 7 milliards de voix différentes, votre corps fait 1 million de milliards de cellules. Chaque cellule possède XY ou XX en fonction chez la femme, XY chez l'homme. Mais chaque cellule possède un gène, le gène de la voix, qu'on appelle le FOXP2. Mais ça, c'est une autre histoire qui est dans le livre.
C'est pour cela aussi que ce qui nous manque tant chez l'être disparu, c'est aussi la voix. C'est ce qui s'efface étonnamment le plus vite de notre mémoire.
Oui, absolument. C'est-à-dire que vous voyez une photo, elle va vous faire de la peine. Vous ne l'avez pas vue depuis 10 ans. Vous voyez votre père, votre mère. Quand je suis amené à voir mon père, que j'ai perdu, j'ai des larmes. Mais quand j'écoute, car je fais partie de cette génération, quelle chance, où sa voix est là, c'est plus des larmes que j'ai. C'est une résonance émotionnelle et puis triste parce que la voix résonne et fait résonner certaines parties de votre cerveau, l'hypothalamus hypophyse, et fait résonner votre monde qu'on appelle l'amygdale, c'est au niveau du cerveau, qui est le monde de la mémoire, mais la mémoire vibratoire. Et c'est la raison pour laquelle on est tellement touché par ces voix qu'on a entendu tout à l'heure, Jeanne Hédier qui nous a quittés, ou Aznavour, ou Edith Piaf.
Et par les voix anonymes de nos vies.
Et par les voix anonymes, ouais. Tout à fait.
Et on va y revenir, Jean Abitbol, voix de femme chez Odile Jacob. On parlera des singularités aussi de certains d'entre nous, au-dessus du lot, hein, notamment Nicolas Canteloup. Voilà, comment expliquer Canteloup, Grégorio, qui arrive à imiter des centaines de voix, ouais. Et avec un grand talent. À tout de suite sur Europe 1, ma chère Julie. On enchaîne ?
Mais oui, oui,
ah bon, on enchaîne,
sûr.
Pardon.
Mais avec, oui, on peut parler, Véronique Sanson.
Avec Jean-Louis Boll, notre invité, qui publie Voix de femme, chez Odile Jacob.
J'en parlais il y a quelques secondes.
Oui.
Véronique Sanson, quand elle chante, on ne sait plus où est le piano. Elle danse avec sa voix. Et elle joue avec sa voix, c'est-à-dire que sa voix, chaque note est une note de piano. Mm. L'écran de sa voix, c'est le piano, et elle vient quelque part se refléter. Mais ce qui est magnifique, chez les grandes chanteuses, comme elle, comme d'autres, comme Hélène Ségara, comme Céline Dion, comme Véronique, bien évidemment, et comme d'autres, eh bien, ces voix-là, on a l'impression, quelque part, c'est comme la pédale forte du piano. On fait un accord, mais même si on arrêtait de jouer, le son continue à être là. On entend cette voix. C'est ce que j'appelle le charisme de la voix des chanteurs, et des comédiens ou des comédiennes également. C'est qu'on entend une voix, et quelque part, même quand elles arrêtent de parler, leur silence parle autant qu'elle, un peu ce qu'on disait de Mozart.
Oui, complètement.
Le silence après Mozart, c'est encore du Mozart. Et bien le silence après ces voix superbes, c'est encore leur voix.
C'est une pianiste et c'est aussi une guerrière, Véronique Sanson, qui a traversé quelques petits soucis de voix, justement, et qui sera au Palais des,
Sports.
Oui, le 24 avril, oui. Notamment à Paris. On l'attend de pied ferme, on ira tous la voir. Ah, Véronique Sanson, pour conjuguer ce pouvoir de la voix, singularité d'intonation, de rythme, des tics de langage qui composent aussi la palette de nos voix. Plus il y a d'aspérité, plus ça fait le sel, le miel, ce que vous voulez, de Nicolas Canteloup. Écoutez, Canteloup, dans du La Salle, tout un programme.
J'entends la colère, j'entends nos concitoyens. Madame Julie, j'entends les Français, j'entends le loup, le renard et la belette. Mais effectivement, j'entends le gilet jaune. Et je les comprends. Vous savez, le gilet jaune, c'est assez proche de la loutre cendrée et du castor. Hein, ils ont ce côté, on fait des barrages. Ce sont des gens formidables.
Et voilà, c'est du Jean Lassalle, Nicolas Canteloup.
Oui. On entend Jean Lassalle. J'entends.
C'est magnifique.
Nous, on entend Jean Lassalle.
Oui,
mais comment il fait, Canteloup ? Qu'est-ce qu'il a dans la voix, Jean Abitbol ?
Alors, dans la voix, il a deux choses. D'abord, il y a un don. Ça ne s'invente pas. Sur le plan athlétique, c'est un acrobate du larynx.
Oui.
Il est capable. Nicolas Canteloup, que j'ai la chance de connaître, qui est quelqu'un d'assez formidable.
Oui.
Et il est capable de faire de l'acrobate, de contorsionner son larynx.
D'accord.
C'est-à-dire que les cordes vocales sont deux, mais il arrive à les rendre asymétriques. Ça, c'est le côté anatomique, le côté physique. Mais ça ne suffit pas. L'avantage d'un imitateur, quel que Nicolas Canteloup ou d'autres, comme Michael Gregorio et d'autres, c'est que lorsqu'ils parlent, ils s'entendent comme vous les entendez. Je m'explique. Quand je parle, je m'entends de deux façons. La voix qui sort de mes lèvres et qui arrive sur mon oreille par le monde extérieur.
Oui.
Et puis la voix qui résonne à l'intérieur de mon corps. Cette voix qui résonne à l'intérieur de mon corps, vous ne la connaissez pas. Je suis le seul à entendre. Et cette voix-là, elle vient masquer le fait de l'imitation. Et l'imitateur arrive à oublier cette voix à l'intérieur de soi-même et il s'entend comme il parle et il s'entend comme vous l'entendez. À ce moment-là, l'imitation, est le maître mot, c'est l'audition de l'autre et le langage du corps. Il a un langage du corps qui va aller avec son imitation.
Mais est-ce que c'est une sorte d'oreille absolue de l'imitation ?
Non. Non, l'oreille absolue, c'est une note donnée qui est... je vous fais un « la », vous êtes capable de dire
c'est un « la ».
C'est paradoxalement une oreille relative.
D'accord.
C'est l'oreille qui l'entend, lui, tel que vous l'entendez, vous. Et la preuve en est, quand vous entendez sur un magnétophone, vous entendez votre voix, vous dites « mais c'est pas ma voix, ça ».
Oui, exactement.
Elle n'est pas belle. Et en fait, pourquoi ? Pourquoi, dit-on, quand on écoute une voix qu'on a sur un message, mais c'est marrant. Tout simplement parce que votre voix à l'intérieur de vous-même résonne dans les graves. Parce que votre corps résonne dans les graves. Mais ce côté grave, vous ne l'entendez vous-même parce que c'est vous qui parlez, mais l'autre ne l'entend pas. Mmh. Et donc, ce côté où vous avez enlevé ces graves fait que vous la trouvez moins séductrice et moins performante.
Donc notre vraie voix, c'est celle qu'on entend sur un message, par exemple.
Absolument.
C'est pas celle qu'on entend au fond de nous, dommage. Voilà. Ce qui est formidable aussi, puisque vous parliez de dons sur Nicolas Canteloup, c'est que c'est la beauté aussi des autodidactes. Il n'était pas chanteur, mais c'était tout comme Thierry Leleuron, écoutez.
Depuis que j'ai voté François, la télé est à moi, sans même que j'arrose.
Le Luron qui imite Dalida. Quel talent. Laurent Gérard, qui a officié ici aussi, a le même talent de chansonnier, de chanson parfaite.
Alors, et puis bien sûr, mais ces gens-là peuvent aller dans les aigus sans problème.
Ah oui.
On va avoir un Leluron, on va avoir un Laurent Gérard, on va avoir un Nicolas Contout, bien sûr, quand il imite Ségolène Royal. Ou, voilà, oui, oui, ça, qui peuvent
oui.
Et puis, Michael Gregorio.
Ah oui,
quand il va dans les aigus, à un moment donné, on se pose la question. Est-ce qu'il imite, il est entre Joe Cocker et Céline Dion, et il passe de l'un à l'autre en l'espace d'un dixième de seconde. En revanche, c'est grave. Qui nous sont imposés à la naissance, ne pourraient pas aller les rechercher. On les a ou on ne les a pas. Une basse profonde, c'est une basse profonde. C'est grave. La femme, elle ne les a pas. Donc c'est très rare ou très délicat qu'une femme puisse imiter un homme, si ce n'est par l'illusion qu'elle a. Car autant le ventriloque est un magicien de la voix, ce n'est pas notre objet aujourd'hui, puisque ce n'est pas dans le livre Voix de femme, mais c'est autre chose. Autant l'illusionniste de la voix, c'est l'imitateur qui lui va vous donner, mais il faut qu'il y ait une synchronisation entre les deux.
Ouais, c'est passionnant. La voix, c'est tout un programme aussi quand on vit au milieu des autres. Et on va en parler dans un instant avec un chercheur en psychologie sociale, Christophe Hag. Et puis à vos côtés, ma chère Julie, on va partager le titre de grande voix, si vous le voulez bien. On va accueillir
Simone.
Une grande dame, voilà, Simone, qui vous accompagne au quotidien, qui est la voix, entre autres, de la SNCF. On ne va pas réduire votre vie à la SNCF, mais vous êtes notre voix tout de même. Bonjour Simone.
Bonjour. Oui, la voix de la SNCF, c'est quelque chose, c'est un titre, c'est un grand honneur.
Voilà.
On en parlera tout à l'heure.
Absolument.
Effectivement, je ne fais pas que ça, mais c'est déjà énorme.
Vous restez avec nous. Merci, à tout de suite.
Nous parlons des voix féminines en particulier, hein, c'est l'objet de votre livre, Docteur Habitbol. Alors pourquoi y a-t-il des voix d'exception? Comment expliquer que certaines nous touchent plus que d'autres? Jean Habitbol publie Voix de femme aux éditions Odile Jacob et il est avec nous en studio, Wendy Bouchard.
La voix et ses pouvoirs, la voix qui dit tout de nous et qui ne triche pas, voilà pourquoi la voix de Julie par exemple n'a pas changé. Vous parliez de l'authenticité de ses voix. Idem pour Simone Hérault qui est depuis 1981 et la voix de la SNCF qui partage ce moment avec nous. Christophe Hag, merci de nous rejoindre. Dans cette émission. Bonjour.
Bonjour Wendy, bonjour au plateau.
Christophe, vous êtes auteur de Vox Confidential chez Michel Lafon et vous êtes chercheur en psychologie sociale. Et cela nous a intéressé d'avoir votre expertise car la voix, quand on vit au milieu des autres, peut en imposer ou peut au contraire nous faire souffrir si elle est jugée trop différente, Christophe. Et vous avez étudié cela notamment.
Oui, faut juste partir du principe que la voix, c'est en fait un second visage. D'ailleurs, le cerveau reconnaît aussi rapidement en fait le visage, un visage familier qu'une voix familière. Donc, elle est vraiment expressive et elle peut vraiment, par, effet papillon, par d'infimes petites modifications dans le ton, l'intensité ou le débit, elle peut trahir l'émotion, elle peut séduire, elle peut blesser. Donc, c'est vraiment un objet d'interaction sociale qui est porteur de tout un tas d'informations. On va dire des codes acoustiques que les chercheurs ont réussi à craquer, hein, comme on craquerait un Da Vinci code. Et on a réussi aujourd'hui à déterminer quelle est la signature finalement sonore, auditive, qui est rapportée à telle ou telle émotion, la joie, la peur, la surprise, l'angoisse, etc.
Et Jean Habitbol disait une chose très juste sur la manière d'apprivoiser sa voix, qu'on n'aime pas forcément car on ne l'entend pas en fait comme on la parle, comme on la prononce. Et il y a des hommes et des femmes qui ont fait de leur voix un métier, et pas seulement les chanteurs. Je pense aux négociateurs, parce que vous les avez étudiés, les négociateurs du RAID par exemple, l'empreinte et le pouvoir de la voix persuasive.
Oui, alors j'ai étudié un spécimen un peu particulier, il s'appelle Christophe Coppen, il a été 12 ans chef des négociateurs du RAID.
Oui.
Il avait cette espèce de don qu'il a travaillé aussi, qui est l'intuition, qui lui a permis de reconnaître en fait toutes les intentions et les émotions de ses interlocuteurs, qui sont des forcenés, des preneurs d'otages. Donc il avait cette hypersensibilité auditive qui est, pourrait être un peu comparable à ce héros du roman Le Parfum, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Baptiste Grenouille, qui lui avait un don, une hypersensibilité olfactive. Et bien lui, elle était littéralement sonore. Et en fait, Coppen se servait aussi de sa voix comme d'un instrument d'influence. Et il travaillait sur ce qu'il appelait, lui, une fréquence d'intimité. Donc, faut savoir que ce personnage est d'origine bordelaise. Et quand il était face à un forcené, preneur d'otages bordelais, il prenait systématiquement l'accent bordelais. lorsqu'il était en train de négocier. Et si vous voulez, il y avait une espèce de, d'accommodation, une manière de se mettre au même niveau acoustique que l'autre, ce qui permettait de réduire la distance sociale, de créer de l'empathie. Mais il ne le faisait pas de manière...
Ça se faisait de manière spontanée, quoi, aussi.
Voilà, c'était quelque chose de spontané. Il faisait appel à quelque chose qui le définissait lui aussi, c'est-à-dire ses vraies origines bordelaises.
Ouais.
Et ça rejaillissait dans une interaction sociale. Et comme ça, bah, il arrivait à créer voilà, quelque chose de... d'intime avec l'autre, et souvent ben, il les faisait sortir sans qu'une seule goutte de sang soit versée. 350 opérations, pas un seul tué.
Incroyable. Jean Habitbol, vous lirez.
Merci la voix.
Ah, oui, hein, Jean Habitbol.
Absolument, mais ce qui est fondamental, c'est mettre l'autre en sécurité dans un domaine vocal, dans un domaine de mots, dans un domaine de silence entre les mots, où il reconnaît quelque chose qu'il a connu avant.
Ouais. On revient à la maman.
Car
quand
l'étrange,
même,
la rupture par rapport à un discours, contrairement à l'art, la rupture dans l'art, c'est quelque chose de formidable. On a quelque chose d'autre. La voix doit avoir une continuité. La rupture dans la voix va créer une cassure. Cette cassure fait qu'on fait un reset, exactement comme un ordinateur. On dit, mais où je suis là ? Alors que si on entraîne la personne, c'est la séduction. C'est-à-dire on entraîne la personne dans des mots, dans des silences qu'elle connaît, dans une façon, une formule ou un accent, comme là, l'accent bordelais, qu'on connaît. La personne en question qui est en face, car la voix n'existe que par rapport à l'autre. Mais la voix, c'est les voix, en fait. Il y a la voix par rapport à l'autre qui nous écoute. On voit comment il va réagir
ouais.
Car la voix se crée au fur et à mesure qu'elle parle. La voix est presque une œuvre d'art.
Et c'est qu'on module hein, en fonction.
Voilà. Ouais. Et puis il y a la voix quand on se parle à soi-même. Et la voix avec laquelle on se parle à soi-même n'est pas la même. Et on retrouve ça. Mais c'est une autre histoire chez un autre groupe d'enfants, mais on en parlera tout à l'heure.
Christophe Hague est avec nous, avec des voix qui se cherchent et parfois qui se perdent. Vous vous souvenez peut-être de l'envolée d'Emmanuel Macron.
Je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous... partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Voilà. C'était intéressant de rediffuser ce moment qu'il faudrait analyser aujourd'hui, Emmanuel Macron, en campagne présidentielle, parce que là, pour le coup, Christophe Hague, il aurait eu besoin d'un coach pour poser sa voix. Mais emporté par l'émotion,
il
a était
après,
totalement dépassé.
Après cet épisode, je crois qu'on lui a conseillé de consulter, et d'avoir quelqu'un
voilà. Conseil. Après coup, alors ça renvoie d'ailleurs à quelque chose qui concerne sans doute beaucoup de vos auditeurs, c'est que vous avez à peu près trois quarts des personnes qui ont des voix aiguës, et qui le vivent pas très très bien, bah, ils ont tendance vraiment sous l'effet du stress par exemple à parler vite.
Oui.
Et plus ces personnes parlent vite, plus leur voix monte dans les aigus. Donc là, il y a un conseil tout simple, c'est si votre voix est assez haut perché, bah, parlez juste un peu plus lentement, en réduisant votre débit de parole et doucement, en diminuant le volume et bye bye un peu la voix de crécelle.
Eh oui, on parlait de politique, Margaret Thatcher a consulté, après avoir accédé au poste de Premier ministre, un coach vocal pour apprendre à rendre sa voix plus grave, hein, précisément pour imposer, pour affirmer son autorité.
Mais dans ce qu'on entend là, il y a presque quelque chose d'absolument impressionnant, c'est que on est grisé par sa voix à un moment donné. C'est-à-dire que dans ce genre de choses, on est presque grisé, on est presque hypnotisé par sa propre voix. Alors que se passe-t-il dans le grand stress, au moment où on veut vraiment persuader l'autre, on va aller jusqu'au bout? Deux choses.
Elle était obligée de terminer
sa
phrase, c'est sûr.
La première, c'est mécanique et c'est scientifique, très simple. Ouais. On crée un tel stress d'adrénaline qu'on provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire que les cordes vocales se dessèchent, donc elles deviennent très fines. Elles deviennent presque vibrantes que dans les aigus. Et puis la deuxième, c'est que l'émotion l'emportant, on a l'impression que pour persuader l'autre, il faut forcer
crier.
Sa voix. En forçant sa voix et en criant, on n'a jamais vu ou rarement quelqu'un crier avec une voix grave. C'est très très dur. Pour pouvoir crier, il faut que les cordes vocales soient fines et que la vibration passe très très vite. Et à ce moment-là, on monte dans les aigus. La force de la voix va être un des éléments persuasifs, ce qui est une erreur.
Emporté par la foule et par l'émotion, Emmanuel Macron, merci Christophe Hague. Ça donne très envie de lire votre ouvrage Vox Confidential chez Michel Lafon qui exporte justement la voix psychologique et la voix en société. Merci beaucoup de ce petit échange avec nous sur Europe 1. Madame Simone Hérault est avec nous, la voix, et on va lui laisser nous raconter aussi cette histoire, la voix de la SNCF qui est si intimement liée à nos vies quotidiennes. Petit tour de la question encore jusqu'à 11h pour parler de la puissance de ces voix à tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
Le tour de la question sur les grands mystères de la voix. Wendy Bouchard.
Avec Jean Habitbol, notre invité Voix de femme, il publie cet ouvrage chez Odile Jacob, entre science, expérience, émotion, artistique évidemment, avec en couverture notamment Edith Piaf et Maria Callas, toutes ces voix qui nous entourent, qui nous ont émus. On parlera de l'attachement, par exemple, des auditeurs à un certain nombre de voix. Mmh. Et nous sommes avec... une grande voix, Simone Hérault, qui est la voix de la SNCF depuis 1981. C'est elle qui enregistre les annonces de tous les trains, de toutes les gares de France. Petit jingle pour vous, mais c'est Julie, une fois n'est pas coutume, qui va faire cette voix-là. Parce que je ne veux pas cataloguer Simone Hérault. Vous voyez ? Allez, SNCF.
Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV numéro 6000, c'est toujours des 6000, hein, 6230, en provenance de Saint-Pierre-des-Corps, va entrer en gare voie F. Éloignez-vous du quai, s'il vous plaît.
Ah, elle aurait aimé le faire, Julie.
J'ai du souci à me faire.
Alors faites-nous dire, Julie, maintenant.
Il faut dire que vous avez commencé à la radio, Simone Hérault. Vous étiez chroniqueuse ?
Oui, je n'étais pas chroniqueuse,
non,
j'étais animatrice,
animatrice
à FIP,
oui,
pendant 30 ans.
Bah voilà.
Voilà,
Et on vous a repéré, on a repéré ce timbre, ces intonations, cette douceur aussi dans votre voix.
Oui, la SNCF a fait un casting parmi les voix de FIP.
Oui, et aujourd'hui, c'est devenu une part de votre vie importante. Vous ne faites pas que cela, évidemment. Mais racontez-nous ce lien qui s'est créé avec le public, avec les auditeurs aussi, et la manière dont vous enregistrez ces voix. Ça se fait de manière très fluide maintenant, ou c'est un petit peu robotique, j'allais dire, parce qu'évidemment, c'est un travail. Il faut enregistrer les noms de villes, les noms de voies, les noms de trains.
Alors, au tout début, lorsque l'ordinateur n'était pas encore de ce monde, si j'ose dire, nous enregistrions les phrases dans leur globalité.
D'accord.
Pour chaque train. Pour,
voilà, travail.
C'était un travail énorme.
Oui.
Nous étions deux à FIP à venir. Voilà, quand on n'était pas à FIP, on était dans le studio de la SNCF et inversement. Et puis... quand l'ordinateur a fait son apparition, eh bien, on s'est mis à enregistrer des petits morceaux de phrases ou des phrases entières, des fichiers donc, qui sont ensuite recollés informatiquement. Et voilà, c'est toujours ce système aujourd'hui.
Comment on travaille sa voix pour des annonces comme celle-ci ? Il faut qu'elle soit, pour reprendre un terme de Jean Habitbol, la plus authentique, la plus naturelle possible, Simone ?
Alors, ma voix, elle est totalement naturelle. Elle est ni très belle, ni très vilaine. Elle est normale. Mmh. C'est peut-être aussi ce qui fait sa longévité. Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Et je ne me prépare pas réellement. Ma voix, elle est ce qu'elle est.
Elle est déjà souriante, hein.
Oui, alors, c'est ce qu'on dit. Et quelquefois, il faut effectivement que j'en enlève un peu de sourire.
Ah, oui, oui, oui.
Mais c'est vrai qu'on me dit qu'elle est naturellement souriante et qu'il ne faut pas que je force le trait.
Oui, mais c'est vrai, vous qui connaissez aussi bien Simone Hérault, j'ai envie de... Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit « ma voix est normale ». Il n'y a pas de voix normale. Ça n'existe pas.
Ben non, parce qu'une voix neutre ne nous toucherait pas
voilà,
comme cela.
Une voix normale. En revanche, dans la voix de la SNCF, c'est une voix qu'on connaît parce que, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, ben, les voix qu'on entend à la radio, c'est des voix dans lesquelles on ne met pas un visage. Aujourd'hui, on le met, mais avant, non. La voix de la SNCF, elle doit vous réconforter. Ce ton de voix velouté, de velours, avec des sons graves, sans qu'il y ait des aigus percutants, c'est ce que vous appelez normal, mais c'est une voix dans laquelle il y a une stabilité et il y a une sécurité à l'écoute.
Ouais, elle est rassurante.
Elle
oui.
est rassurante.
Même quand elle annonce en retard de 2 heures.
Voilà. Oui, c'est ça.
Et ce côté rassurant, eh bien, c'est ces voix de radio que... On écoute 10 ans, 15 ans après, on reconnaît et ça nous remet dans un bain un peu de jouvence, j'allais dire, quand on a écouté la même voix pendant des années et on sait qu'elle est encore là.
Complètement.
Elle nous manque après, on dit mince, il n'est plus tout à l'heure.
C'est pour ça qu'on voyage encore plus, voilà. Mais quand vous dites par exemple, mesdames, messieurs, éloignez-vous de la bordure du quai s'il vous plaît, on est dans une petite musique, dans un protocole comme en avion quand les stewards, les hôtesses font leur petit préambule de sécurité.
Oui,
quelque chose
exactement.
Aussi d'automatique,
exactement.
Mais de rassurant.
D'ailleurs, sur cette phrase, c'est un peu ma phrase culte.
Alors, dites-la. Ouais.
Éloignez-vous du bord du quai, s'il vous plaît. On dit bord maintenant.
Du bord, pardon.
On raccourcit un peu. On essaye de moins avoir trop de nuisances sonores dans les gares. Donc, les annonces raccourcissent. Voilà, on dit le bord du quai. Et cette phrase, par exemple, elle a inspiré une écrivaine, Annie Saumont, en l'occurrence, qui en a fait tout un roman autour de ma voix, etc. Parce que avec cette voix rassurante, etc., j'empêche un homme de se suicider en lui disant « Éloignez-vous du bord du quai, s'il vous plaît. » Et il le prend pour lui. Vous voyez ?
C'est ça.
Il y a eu ça, il y a eu des vidéos il y a sur ce thème-là.
Drôle.
Mais
ouais.
C'est ça qui est beau dans sa voix, c'est qu'elle personnalise, on a l'impression qu'elle parle à chacun.
Exactement.
Elle parle à un groupe.
Ouais.
C'est pas une voix de l'individuel qui parle au collectif, c'est une voix de l'individuel qui s'adresse à un individuel. Éloignez-vous pas que tout le monde s'éloigne. Non, c'est le éloignez-vous avec le vouvoiement. On arrive à cette personnalisation de l'individu par rapport à l'individu. Et la force d'une voix, c'est ça.
Simone Hébreux, dans ce monde où tout passe, on salue la SNCF qui a souhaité conserver justement cette empreinte vocale. Depuis 1981, c'est pas rien.
C'est extraordinaire, c'est très rare. C'est, je pense que c'est
bah, même unique,
un exemple. Il y a Julie et moi.
Oui, complètement.
c'est vrai. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que je parle à chaque personne, à tel point que la SNCF vient de créer un avatar de moi.
Oui.
Et que l'on peut sur Twitter faire hashtag Allo Simone pour parler des problèmes d'information. Il y a un gros chantier en ce moment en cours à la SNCF pour essayer de résoudre tous ces problèmes d'information qui ne sont pas fiables, etc. Donc, on a créé un avatar. C'est génial parce qu'elle a au moins 25 ans de moins que moi. Elle est très mignonne. Elle est,
Et donc, on s'adresse à vous et on fait des réclamations. Et c'est vous qui répondez avec une voix...
Alors, il y a toute une équipe derrière. Hein, ce n'est pas moi qui réponds. Oui. Mais tout est traité. Et après, je reviens le mois suivant pour expliquer aux gens. Voilà, il y a eu tel problème d'information. Voilà ce qu'on a fait pour le résoudre, etc. etc. Donc, c'est assez extraordinaire parce que non seulement ma voix dure et maintenant on me fait une petite jolie petite fée clochette.
Il y avait le Père Noël qui répondait
Simone.
Aux enfants et il y a Simone qui répond à tous les problèmes.
Donc
il y a
ce lien de proximité. En fait, je suis entre les voyageurs et la SNCF et les cheminots. Je fais le lien.
Magnifique.
Voilà. Et ça, c'est génial.
Simone Hébreux est avec nous, la voix de la SNCF. Ça tombe bien parce qu'on parle des voix de femmes avec Jean Habitbol depuis 10h ce matin. Voix de femme, première voix que l'on entend, écrivez-vous, qui va stimuler notre esprit, notre pensée, notre propre voix. Je recommande cet ouvrage aux éditions Odile Jacob et on en parle encore quelques instants jusqu'à 11h donc sur Europe 1. A tout de suite.
À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y passer. Penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir.
Jérémy Frérot sur Europe 1, revoir. Alors, on aurait pu passer du Céline Dion, mais j'avais envie de vous faire écouter aussi cette jeune scène musicale, oui. Jean Habitbol, parce que typiquement, voilà un jeune garçon qui a du talent, qui n'a pas spécifiquement une grande voix, mais qui a une voix légèrement éraillée, justement, un petit peu imparfaite, comme on aime bien, un peu enrouée.
Et c'est une voix imparfaite, éraillée, mais surtout qui joue avec les rythmes. Et sa force, c'est d'avoir mis des mots et d'avoir un rythme vocal qui lui permet d'associer cette voix à un vrai rythme qui quelque part vient nous charmer d'une façon différente. Mmh. Et on cherche la différence. Et ce qui est assez formidable, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au moment de la pause, c'est que la voix de la femme, la voix des enseignantes, quelle est leur fragilité? Pourquoi les voix sont plus fragiles que les voix des hommes? La femme, je l'ai montré dans le livre, si vous voulez, elle a 4 périodes de sa vie au niveau de la voix. L'homme, jusqu'à la puberté, il a une voix, puis après la puberté, il a toujours les mêmes hormones, les androgènes.
Oui.
La femme, jusqu'à l'âge de 9-10 ans, elle est, entre guillemets, une adolescente, puis ensuite, de 40 à 60, elle a ce qu'on appelle la vie d'adulte, et puis après, la voix ménopausée. Ces trois périodes
de vie... Mais la voix ménopausée, ça existe?
La voix ménopausée, bien sûr.
Et ça veut dire...
Mais ces trois périodes de vie sont des périodes différentes pour la femme, car des imprégnations hormonales, dont on ne parlera pas ici, jouent un rôle fondamental. Mais maintenant, on a vu une chose absolument
juste
incroyable.
Juste parenthèse, la voix ménopausée, elle est plus grave?
Elle est plus grave, parce qu'il n'y a plus la progestérone,
d'accord.
Mais on a des hormones, Et on a des plantes qui permettent de garder cette voix. Aujourd'hui, d'accord, c'est plus du tout une fatalité. La voix de la femme peut parfaitement garder sa jeunesse, si je puis dire, jusqu'à 75 ans, 78 ans, sans problème, en ayant des compléments alimentaires, en ayant des compléments au niveau vitaminé, en ayant des minéraux, et ce qu'on appelle la sauge, par exemple, à partir de 55-60 ans.
Naturel,
et il y a des pilules, comme l'harmonine, des choses comme ça, entre guillemets, ce sont des comprimés à base de vitamines. Et là, on est sur une structure, aujourd'hui, formidable. C'est qu'on a la possibilité d'éviter que la voix ne s'altère, ne se fatigue avec l'âge chez la femme. C'est plus rare chez l'homme.
Alors, ça, j'allais dire, sauf dans nos métiers, c'est un petit peu une coquetterie parce que la voix, elle évolue aussi naturellement. Où il y a vraiment des femmes qui ont pas envie, juste, qui ont envie de garder cette fraîcheur de la voix jusqu'au bout, que vous voyez défiler dans vos cabinets.
Non, ce que vous dites est vrai. C'est une coquetterie qu'une femme va avoir parce que, on va donner un exemple très simple. Je pensais pas, mais on va donner un exemple très simple. Mmh. Quelqu'un vous parle, elle vient de faire un lifting. Mmh. Elle a 57 ans.
Des fois, ça altère la voix.
Elle se retourne, elle vous serre la main, vous dites « Ah, bonjour docteur !» Ça ne colle pas avec le visage. Là, il y a un choc entre, si vous voulez, la voix et le visage.
Et
c'est là où il y a un problème.
Julie,
moi j'ai une question à vous poser sur l'extinction de voix. Qu'est-ce qui se passe quand on a une extinction de voix?
Alors, c'est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme pour raison suivante. La femme, par exemple, au Japon, à peine 2% des femmes ont des petits nodules sur les cordes vocales, c'est des petits boutons. Oui. En Italie, plus de 40%. Voilà. Donc, la gestuelle vocale, en fonction de la culture, est importante. Ah. L'extinction de voix, c'est une voix qui va se casser, mais en fonction de la façon dont vous allez l'employer. Et chez la femme, c'est beaucoup plus fragile. Notamment chez 30% des femmes, avant les règles, eh bien, la voix peut se casser parce qu'il y a une perte de souplesse, il y a un petit hématome et il y a des petits problèmes vasculaires.
Alors, toujours sur l'extinction de voix, vous avez un truc miracle. Je me souviens que vous m'aviez donné une recette une fois, il y avait du beurre salé dedans.
Voilà, c'est quoi le truc miracle, c'est des choses que m'ont appris des gens comme j'ai la chance de traiter des gens comme monsieur Pavarotti et les autres chanteurs d'opéra. J'ai pas eu la chance de connaître la Cala, ça c'est vraiment dommage, mais ça fait partie des gens que j'admire beaucoup. Eh bien, tout simplement, une chose relativement simple, c'est que vous prenez une infusion au thym.
Oui.
D'accord. Deuxième, dedans, vous mettez effectivement une cuillère à café de miel de manoukia. Pas manoukian, hein, manoukia. Voilà. Oui. Et rien que vous faites ça un quart d'heure, une demi-heure avant une performance vocale, pas de problème. Deuxième chose, c'est l'inhalation avec du calyptus.
Ah oui, ça marche très bien.
Qui sont du calyptus, du thym, du romarin et de l'essence de pin. Mmh. Et là, c'est absolument fantastique. Je n'en ai pas le nom de la molécule parce que c'est... Mais peu importe, qui marche très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites? Mes trucs sont simples. C'est que vous inspirez par le nez. Mmh. Et quand vous expirez, eh bien, vous ne faites pas un A, bouche ouverte, vous faites... Et vous chantez bouche fermée pendant 5-6 minutes.
Tout de suite dans notre cuisine, on va se
très simple. C'est un massage des cordes vocales qui permet cette vibration.
Simone. Et beurre salé, alors, il est où?
Beurre salé, dans ce que j'ai dit, c'est le thym avec une cuillère à café de miel et une cuillère à café de beurre salé. Tout à fait.
Simone Hérault, vous avez la recette. Vous avez déjà été soumise aux aphonies ou justement en gardant la souplesse de votre voix et la douceur, il n'y a pas eu de problème?
Alors, ça m'est arrivé, mais très très rarement, une fois ou deux dans toute ma carrière, et je connais effectivement les recettes du docteur Habitbol, puisque c'est mon docteur aussi et que je vais le voir régulièrement, un petit peu comme on va porter une voiture pour un contrôle technique.
C'est ça.
Voilà, je le vois de temps en temps et il me donne effectivement ces trucs.
Alors, vous travaillez très régulièrement pour la SNCF pour enregistrer ces différentes annonces. Que faites-vous par ailleurs de cette voix aussi, Simone Hérault?
Alors, cette voix, elle était anonyme à FIP. Mmh. On est relativement anonyme. À la SNCF, ma voix, elle était là. Je suis très proche des voyageurs et des cheminots, mais on ne me voyait pas. Mmh. Donc, j'ai eu envie de rencontrer le public. Mmh. Alors, j'ai créé, en quittant la radio, j'ai créé une compagnie littéraire, une compagnie de lecture.
D'accord.
Et je fais des spectacles littéraires, voilà, depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et je suis devant le public et je peux... parler comme
vous
je
lisez
le,
des
le
livres
souhaite.
Sur scène, c'est ça?
Alors je lis, alors c'est très préparé, c'est avec de la musique ou pas. La prochaine lecture que je fais, c'est sur Octave Mirbeau. Mmh. Après, pour le Printemps des Poètes, on va faire quelque chose sur le thème de la beauté, puisque c'est le thème du Printemps des Poètes de cette année, avec un pianiste. Ça peut être avec de l'orgue, ça peut être avec des images. Ça, c'est
formidable. Si on a envie de rencontrer Simone Hérault, on va sur un site internet.
Oui, c'est lire-autrement.com.
Voilà. Voilà. Éloignez-vous du bord du quai, s'il vous plaît. Ça, on ira avec grand plaisir, voilà, découvrir votre aussi univers littéraire. On va se quitter dans quelques secondes. Jean Habitbol, je vous remercie vraiment pour cet ouvrage Voix de femme, Odile Jacob. Évidemment, nous sommes à la radio, donc ces voix parlent. Comment vous expliquez que certaines s'attachent plus à des voix qu'à d'autres? Parce qu'on fait aussi partie, comme Simone Hérault à la SNCF, du quotidien des gens, notamment à la radio.
Alors, des voix vont s'attacher plus à quelqu'un qu'à d'autres, tout simplement par rapport à l'environnement dans leur enfance.
D'accord.
C'est une expérience absolument fantastique. On n'aura pas le temps d'en parler, ou je vais faire très court. On a pris des groupes d'enfants, qui sont des groupes d'enfants de 3 fois 20 jeunes filles qui ont entre 9 ans et 11 ans, et on leur a fait passer un examen. Et ensuite, à la fin de cet examen, c'est une histoire incroyable. On a dit, premier groupe de 20, on a fait ce qu'on appelle un taux, on fait un prélèvement de cortisone et d'ocytocine, salive et urine, peu importe. Et le cortisone, en sortant de cet examen, bien évidemment, il est au plafond, puisque c'est l'hormone du stress. Et l'ocytocine, l'hormone de la récompense, est au rez-de-chaussée, si je puis dire. Dans tous les groupes, donc dans les 3 groupes de 20. Et puis, dans le groupe qui sort, on dit à la mère de venir, d'embrasser l'enfant et de lui parler. L'ocytocine monte au plafond, le cortisone descend. Deuxième groupe d'enfants. On leur dit... Allez voir un film pendant 20-75 minutes, on vous voit après. L'ocytocine est toujours au ras du sol et le cortisone au plafond. Donc, il n'y a rien. Le troisième groupe, on prend le téléphone portable, on le donne et on dit, écoutez, votre mère, que se passe-t-il? L'ocytocine est encore plus haut que le groupe dans lequel la mère était présente. Et le cortisone est complètement chuté. Donc, la résonance de la voix de la
maman.
Incroyable. Et dans Voix de femme, ça j'explique beaucoup, la voix de la femme est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment... La voix que l'on entend dès le départ au moment où on va naître, et le cri de l'enfant lorsqu'il sort est un cri également phénoménal, parce que la mère, au moment du cri de l'accouchement, elle lui chante la berceuse qu'elle a chantée pendant 9 mois, l'enfant va s'arrêter.
Jean Habitbol, Voix de femme chez Odile Jacob, merci beaucoup pour ces découvertes et ces partages. Merci Simone Hérault, à très bientôt.
Merci à vous.
Et merci de nous rendre nos voyages si agréables.
Merci.
Merci ma voix, moi Julie du quotidien, à demain.
Merci Julie.
Ciao.